Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Eh bien, on a le plaisir d'avoir Chris Tallentire, qui est francophile et passionné de l'histoire des explorateurs français de l'époque dans la région de l'Indo-Pacifique. Il s'est rendu sur Dirk Hartog Island mercredi dernier, le 30 mars, pour marquer le 250e anniversaire de l'arrivée du commandant, lui, de Saint-Alouane, sur cette île au large de l'Australie occidentale, le 30 mars 1772, et la prise de possession de l'île au nom du roi Louis XV. Chris, bonjour et bienvenue sur SBS French.
Bonjour Jean-Noël et bonjour aux auditeurs.
Alors, parlez-nous de votre intérêt personnel de vous rendre sur l'île de Hartog Island le mercredi 30 mars.
Bah, c'était pour commémorer cet événement qui est vraiment quelque chose dans notre histoire d'Australie occidentale. C'est vraiment quelque chose parce que... C'est un moment où, effectivement, l'Australie occidentale aurait pu devenir français si la France avait poursuivi cette prise de possession de l'Australie occidentale. C'est quelque chose qui était tout à fait légitime de faire cette prise de possession à l'époque, avec les lois internationaux de l'époque, parce qu'il y a deux choses. Il y avait le traité de Sias de 1494 qui faisait que le monde était un peu coupé en deux et effectivement les Anglais avaient pris possession de l'Australie de l'Est par coup en 1770, mais ils n'avaient pas pris possession de la côte ouest. En fait, ils ont dit on prend possession jusqu'au 135e ligne de longitude est de Greenwich. Ça, c'est ça, le point de vue des Anglais. Mais il y a autre chose aussi, c'est-à-dire qu'à l'époque, on ne savait pas vraiment si la Nouvelle Hollande et le nouveau pays de Galles n'étaient pas deux grandes îles séparées. Et c'était pas jusque 1802 que Baudin et Flinders ont pu constater que le continent australien, c'était un continent. Donc, c'était tout à fait ouvert pour les Français, avec l'équipage de Saint-Alouane, de faire cette prise de possession. Et c'est pour ça que j'ai pensé que vraiment, il fallait commémorer cet événement de 30 mars 1772. Quand l'équipage était au nord de Hartog Island, à Turtle Bay, et là, un équipage avec le sous-lieutenant Mongeau de Lague, vers 10 heures le matin, arrivait sur terre avec un petit pinasse, et a fait le nécessaire pour prendre possession. Ce qui est de mettre des bouteilles sous un arbuste avec un petit parchemin qui disait que nous prenons possession au nom de Louis XV, roi de France. Et aussi, ils ont laissé des écus là pour marquer, pour laisser des traces. Mais c'est très curieux et on peut en parler que, en fait, on n'a pas pu trouver ces écus et ces bouteilles jusque 1998. Et nos explorateurs, nos historiens ont pu trouver ça en 1998. Mais cette histoire, c'est vraiment quelque chose qui fait de la richesse de l'Australie. Mais la chose qui me fascine le plus, c'est que, ils ont manifesté un certain respect et une reconnaissance que la Nouvelle-Hollande était habitée. Et la grande question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit au Cour royal à Versailles en 1773-1774? Qu'est-ce qu'ils ont pensé quand ils ont lu les manuscrits que les gens comme de Rosalie, de Boisenec, de Mongeau de Lague, que de Champvalent ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont pensé quand c'était clairement marqué que la Nouvelle-Hollande était habitée? Est-ce qu'ils ont vu, ou est-ce qu'ils ont eu un moment d'hésitation? Ils se sont dit, ben, il faut aller doucement avec cette prise de position. C'est vrai que le 30 mars, techniquement, la France a fait cette prise de position. Mais peut-être au Cour royal, il y avait des gens avec les points de vue philosophiques, comme Jean-Jacques Rousseau, les autres philosophes de cet siècle de Lumière, qui étaient très respectueux vis-à-vis des cultures traditionnelles. C'est pour ça, peut-être, ils ont hésité. Et là, on voit un champ de recherche dans les archives nationales en France qui, à mon avis, devrait poursuivre. Et on a du travail à faire encore là pour voir qu'est-ce qu'ils ont vraiment dit. Les conseillers rois, Louis XV, qu'est-ce qu'ils ont pensé quand ils ont vraiment étudié les données de cet voyage de découverte.
Et puis, Christian Taille, on va peut-être rappeler aux auditeurs que le navire est aussi arrivé le 17 mars 1772 près de Cap Lewin, mais à cause du mauvais temps, l'équipage n'a pas pu débarquer. Donc, encore une occasion ratée de prise de possession.
Ah oui, oui, c'est sûr que ces voyages, vraiment, ces pauvres marins, c'est ce qu'ils ont subi pendant ces voyages. C'était vraiment incroyable. Effectivement, ils ont quitté l'île de France, maintenant l'île Maurice, oui. Le 16 janvier 1772. Ils ont descendu jusqu'à l'île Kerguelen. Ils ont pris possession de l'île Kerguelen le 14 février 1772. Et ils ont continué après. Ben, c'était un bateau, le Gros Ventre, qui a continué parce qu'il y avait deux bateaux qui étaient au Kerguelen. Il y avait la Fortune et aussi le Gros Ventre, mais les deux bateaux étaient séparés. Et le commandant Kerguelen, il a dit bon, bah, moi, je rentre à l'île Maurice, à l'île de France, mais à Saint-Aleron, il s'est dit bah, nos ordres sont de continuer vers l'est pour voir cette terre australe. Donc lui, il a respecté les ordres, il a continué. Comme vous disiez, c'était le 17 mars 1772 qu'ils ont vu le sud-ouest de l'Australie et ils ont bien pensé, peut-être on aura une chance de amarrer là, de explorer. Mais à ce moment-là, ils ont eu une tempête. Et la mer était trop sauvage, donc ils n'ont pas pu. Et donc ils ont continué vers le nord. Je pense qu'ils ont dû avoir des cartes qui disaient qu'il y a des endroits un peu plus sûrs vers le nord. Donc ils ont monté jusqu'à Shark Bay. Et là, ils ont, à Shark Bay de Carcatog Island, où effectivement ils sont arrivés. Mais une chose très curieuse, Jean-Noël, c'est que le commandant Saint-Aleron, il ne s'est jamais mis les pieds sur terre. Il a resté sur le navire Le Gros Vent tout le temps. Mais il était vraiment le commandant. C'est lui qui donnait les ordres. Mais lui-même, il a resté sur le navire tout le temps. Et puis après de Carcatog Island, ils sont continués pour Batavia. Et non, ils préfèrent envoyer les gens. Donc au Kerguelen, il a envoyé un monsieur du Boisenec qui a fait la prise de possession. À de Carcatog Island, il a envoyé le sous-lieutenant Mongeau de Lague pour prendre possession. Et ce pauvre Mongeau de Lague, lui aussi, il est mort avant de... Il n'a pas pu rentrer en France. En fait, il est mort septembre 72, quelques jours après le retour du Gros Ventre à l'île Maurice. Donc, il est mort à 32 ans du paludisme, on pense. Donc, il a dû attraper ça à Batavia. C'est vraiment incroyable, les maladies, les conditions à bord. C'était vraiment quelque chose de subir pendant ces voyages. Incroyable.
Et puis Chris Talentire, il y a eu le 30 mars cette célébration à l'Alliance française de Perth pour marquer l'arrivée du gros ventre sur Duck Atoll Island, et vous avez fait une liaison en direct pour expliquer aux spectateurs de ce qui se passait exactement.
Oui, 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 c'était un petit challenge que je me suis fait parce que il n'y a pas de téléphone au nord de Duck Atoll Island. Ouais. Donc, j'ai fait ça par satellite, Zoom par satellite. Mm-hmm. Et ça a marché. mais j'étais pas sûr. C'est super comme endroit. C'est magnifique. Cape Inscription, où Duck Atoll a mis les pieds sur terre. Mais il n'a pas pris possession. Lui, il est arrivé là en 1616. Lui, là, donc ça fait plus que 400 ans que les Hollandais sont arrivés sur Duck Atoll Island. Mais Cape Inscription, c'est donc tout près. C'est intéressant que ces marins de l'époque, souvent, ils arrivaient sur cette île, parce qu'il y avait aussi 1699 l'arrivée de William Dampier, mm-hmm. qui a aussi mis les pieds sur terre, et lui a pris une bonne collection de spécimens botaniques qu'il a emmené en Angleterre, en fait, mais lui non plus il n'a pas pris possession, donc c'est sûr que l'endroit a eu pas mal de visites. Mais je pense que c'est seulement les Français qui ont vraiment noté que la terre aux alentours était habitée. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Et cette reconnaissance, je pense que des aborigènes du coin, le peuple du région, ils sont ils apprécient ça. Donc le Malgana people, ils sont contents que enfin les Européens ont eu un degré de respect pour le fait qu'ils sont déjà installés dans la région.
Chris Talentire, merci de nous avoir éclairé sur cette période de l'histoire franco-australienne, je dirais.
Merci Jean-Noël et merci beaucoup aux auditeurs.
Et à très bientôt sur SBS French. Merci.
À bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.